Nous avions juste abordé la question de la période hellénistique, donc nous allons faire un mouvement de yo-yo ou d'aller-retour entre la Grèce antique et aujourd'hui. L'intérêt de la période hellénistique, c'est que c'est une période où donc ont émergé les grands courants de la philosophie grecque, qu'on peut dire morale. Et c'est pas un hasard si ces courants ont émergé à cette période-là. Je vais expliquer pourquoi. La période hellénistique, donc, c'est ce qui succède la période classique en Grèce. La période classique, c'est en gros deux, trois repères, le 6e, 5e siècle, principalement avant notre ère commune. Donc, c'est la période surtout de Platon. Et ça se termine avec Aristote, si vous voulez. Socrate, Platon, Aristote. C'est la période où la cité d'Athènes est à son apogée et est véritablement un modèle, 3e siècle, à zéro, quoi. Au début de notre ère commune, si vous voulez. C'est une période qui dure longtemps, qui est une période extrêmement chaotique et en même temps faite de moments de splendeur et de décadence. Donc, ça va être une période de déstabilisation profonde de la cité grecque, et en particulier d'Athènes, une période de démoralisation des citoyens athéniens, et ce n'est pas à hasard si c'est dans cette période que s'est imposée cette émergence, ça correspondait à une nécessité profonde, d'une philosophie morale, d'une philosophie ou d'une éthique, si vous voulez. Voilà. Parce que, en gros, on peut dire que la grande métaphysique, c'est la grande théorie philosophique, qui est une réflexion sur l'être, une réflexion ontologique, avec Platon, Aristote notamment, supposait d'une certaine manière une société relativement sereine, relativement stable. Il faut mettre beaucoup de guillemets parce que j'oppose un peu schématiquement les périodes. Et donc de construction d'un système de pensée du monde, de l'homme, articulant la physique, la métaphysique, l'éthique, l'esthétique, dans un ensemble cohérent. Beaucoup de philosophes aujourd'hui considèrent que c'est la condition d'une pensée philosophique, de faire système et d'articuler ces différents plans, ces différents objets de réflexion. Il y a donc un socle théorique qui est d'une certaine manière acquis. Et par contre, succède cette période d'instabilité, de démoralisation de la société, du citoyen à Athènes. Je vais expliquer comment et pourquoi. Et donc, il y a une aspiration, il y a un besoin des individus à avoir des réponses pratiques par rapport aux questions, aux angoisses que ces temps troublés posent. Donc, il y a nécessité non plus d'une théoria, mais comment on vit avec la théoria, comment on vit avec la philosophie, qu'est-ce qu'on en fait dans la vie quotidienne, d'une certaine manière. Donc, on passe, comme dirait Kant, d'une raison pure à une raison pratique comme nécessité. Or, ce qui était très intéressant, c'est que là, on est conduit à faire non pas de l'histoire pour elle-même, si tant est que l'histoire soit juste un objet du passé, mais on est amené à nous interroger directement sur aujourd'hui. Dans la mesure où cette période hellénistique est portée par des questions et des enjeux qui sont, sans faire d'anachronisme, très similaires ou qui rejoignent, ou très analogues aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais m'attacher à mettre en évidence dans un premier temps. Ça permettra de mettre en lumière, d'une certaine manière, à quelles questions, à quels enjeux répond la nécessité d'une philosophie morale. C'est en même temps une période où en Grèce est émargée et coexisté des grandes écoles de philosophie, des grands lieux d'enseignement, de réflexion autour de la question philosophique, courants qui coexistent, je les rappelle rapidement, l'Académie platonicienne continue d'exister, et le platonisme, vous savez, va avoir, je le rappelle, une vie très longue, vu qu'il va se poursuivre jusqu'à la période de l'Empire romain décadent. Donc les académiciens, comme on les appelle, continuent d'être un foyer extrêmement intense. Et il succédera sur l'élan de Platon poursuivi par Aristote, par certains côtés, se poursuivra toute une série de scolarques. Scolarques, c'est les directeurs de l'école, qui sont ce qu'on appellera après, sur l'époque romaine, les néo-platoniciens. Donc je donne quelques noms rapidement, mais je n'ai pas l'occasion de les aborder là maintenant. Ce sont des gens comme Proclus, ou Proclos, si on garde la dénomination grecque, Plotin, c'est les figures importantes, Plotin qui a beaucoup réfléchi sur l'âme, sur la question de l'âme. Je citerai également des gens comme Jamblique, J-A-M-B-L-I-Q-U-E, au 5e siècle, donc qui est vraiment, dont j'ai déjà parlé, pour moi c'est quelqu'un, une source d'inspiration infinie, c'est Damasius ou Damasios, dont j'ai déjà parlé, D-A-M-A-S-C-U-S-C-U-S ou S-C-I-O-S, tout simplement parce qu'il était de Damas. Il a subi d'ailleurs les persécutions de l'Empire romain chrétien, ce qui fait qu'il est retourné vivre au Moyen-Orient. Donc ça, c'est un courant extrêmement vivace qui est présent et rayonnant pendant la période hellénistique. Vous avez aussi les aristotéliciens, donc à travers l'école d'Aristote, donc qu'on appelle aussi les péripatéticiens. Ce qui veut dire trottoir, ou c'est l'école du lycée aussi. Qui a encore, et puis alors le dernier grand, qui est au 5e siècle, donc qui est vraiment, dont j'ai déjà parlé, pour moi c'est quelqu'un, une source d'inspiration infinie, c'est Damasius ou Damasios, dont j'ai déjà parlé, D-A-M-A-S-C-U, S-C-U-S ou S-C-I-O-S. Tout simplement parce qu'il était de Damas. Il a subi d'ailleurs les persécutions de l'Empire romain chrétien, ce qui fait qu'il est retourné vivre au Moyen-Orient. Donc ça, c'est un courant extrêmement vivace qui est présent et rayonnant pendant la période hellénistique. Vous avez aussi les aristotéliciens, donc à travers l'école d'Aristote, donc qu'on appelle aussi les péripatéticiens, ce qui veut dire trottoir, ou c'est l'école du lycée aussi. Plus. Et ensuite, alors proprement parler, vous avez les deux grandes écoles qui vont fonder véritablement cette philosophie morale et sur laquelle on s'appesantira davantage. Ce sont les stoïciens, dont le nom vient du fait que l'école, le lieu de l'école était près du Stoa, S-T-O-A, qui en grec veut dire le portique. Un portique. Le fondateur, entre guillemets, est Zénon. Hein, je l'ai dit rapidement l'autre fois, je n'y reviens pas plus que ça. Zénon de Citium ou de Citium. C-I-T-I-U-M ou K-I-T-I-O-N, selon qu'on reste sur la dénomination grecque ou alors latine. L'autre grande école, c'est l'école fondée par Épicure. Donc, j'ajouterai simplement que ces deux écoles ne sont pas en opposition frontale, doctrinale, avec le platonisme, donc avec l'académie. Bien au contraire, d'une certaine manière, elles sont dans l'élan de l'académie, mais prolongent l'académie sur la raison pratique, sur la question de l'application de la métaphysique dans la vie quotidienne. Ce qui veut dire que toutes ces écoles se réfèrent à ce qui, pour elles, est le modèle, la référence absolue, qui est Socrate. Pour les épicuriens comme pour les stoïciens, Socrate est par excellence le modèle même de celui qui est le philosophe, c'est-à-dire qui s'attache, non pas à écrire des livres, non pas d'abord à être prof, mais d'abord qui s'attache à vivre conformément à l'exigence de la sagesse, à l'amour de la sagesse. Ça, c'est fondamental.
C'est pas le Socrate de Platon.
C'est aussi le Socrate de Platon, au sens où c'est quand même à travers Platon, entre autres, mais aussi, et l'enseignement platonicien de l'académie qu'on pouvait connaître Socrate largement. Donc, c'est compliqué. C'est à la fois Platon trahi d'une certaine manière, mais comme tout traducteur d'une certaine manière, hein, que l'éclair entre Platon et Socrate, mais en même temps, Socrate est dans Platon. Et surtout, beaucoup d'épistémologues et de philosophes considèrent qu'on peut séparer les premiers livres de Platon, les dialogues proprement socratiques, et les autres. Mais bon, on peut en discuter très très longuement, parce qu'on peut montrer aussi, et c'est ce que fait Pierre Hadot, que même dans les livres plus tardifs, les dialogues de la maturité, comme on dit, de Platon, on retrouve largement Socrate, ce qu'était Socrate. Donc tout cela est compliqué et ne peut pas se réduire à des coupures, des oppositions si simples que ça. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une opposition très nette entre un Socrate c'est l'opposition entre oralité et écriture, qui est une opposition extrêmement intéressante. C'est-à-dire que Socrate, en gros, n'a pas voulu, ou voire a refusé, d'écrire. En gros, il considérait qu'il ne savait rien, qu'il n'était que dans un questionnement à travers le dialogue. Alors que Platon va formaliser, fixer par écrit la théoria. C'est peut-être là-dessus qu'est l'opposition, plus qu'entre le fait qu'un Platon aurait complètement trahi Socrate et qu'il y aurait un Platon qui serait plus fidèle à Socrate, qui serait le premier Platon. Par contre, l'opposition entre l'oralité, ce que fait l'oral, ce que fait la parole orale, et la fixation par l'écrit, cette opposition était très intéressante. Elle vaut jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs.
On communique.
Oui, mais ça, c'est logique, comme dans toute période. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça qui fonderait l'objection selon quoi, univoquement, on pourrait dire que Platon a complètement trahi Socrate. C'est simplement ça. Ah oui, mais je croyais que c'était par rapport à ce point-là que tu évoquais cela. Mais même Socrate lui-même, il est évident qu'il était nourri de ce bain multiple qui étaient aussi les ésotérismes, comme tu les appelles, la mythologie. Je pense à la Pythie, aux rites religieux, etc. Bien sûr qu'il était nourri de cela. Simplement, l'effort de Socrate, qui est prolongé par Platon, c'est de se nourrir de cela, mais de dire attention, faut s'en arracher. Par exemple, Platon dit la philosophie commence à partir d'une critique du mythos, du mythe. C'est-à-dire qu'il se nourrit des mythes anciens, il les connaît, il les utilise parfois comme des métaphores,
Oui.
mais il dit, faut faire un pas de côté.
Exactement.
C'est exactement le problème de l'exercice de la sagesse est un exercice de la raison, et on va le retrouver très fort, j'y reviendrai, chez les épicuriens comme les stoïciens. Ce qui prime, c'est la raison. Et la raison suppose un arrachement à la croyance. Non pas forcément nier la croyance, mais faire un pas de côté par rapport à la croyance. Donc c'est en ce sens-là que, à la fois, tous ces penseurs et t'as raison, les néoplatoniciens aussi sont nourris des mystiques. Alors, en plus, les néoplatoniciens, ils auront l'apport des mystiques orientales que n'avaient pas véritablement Platon, Socrate et Aristote. Donc, nourris de tout cela, mais dit, il faut une rupture par rapport, une rupture qu'on pourrait qualifier presque en termes contemporains épistémologiques par rapport à la façon de penser avec tout ce qui est de l'ordre de la croyance, du mythe, au fond du religieux. Ce qui ne veut pas dire nier le religieux, c'est dire que ce n'est pas la pensée religieuse qui fonde. Là, ce que j'appelle religieux, notamment par rapport à la Grèce antique, c'est précisément un système de croyances et une vision du monde fondée justement sur les mythes théogoniques en particulier. Et il y a incontestablement une rupture. C'est bien précisément là-dessus que se fonde la physique des philosophes grecs. Pourquoi les philosophes grecs commencent par une physique, c'est-à-dire une étude du monde, du cosmos? C'est précisément pour fonder la philosophie, la théoria, sur une représentation du monde qui ne soit pas simplement celle des mythes, celle des théogonies. Ça, c'est quand même important. Et on le retrouve très clairement, par exemple, chez les épicuriens. L'atomisme épicurien est clairement une rupture complète par rapport à tous les grands mythes. Donc à la fois c'est le terreau dans lequel tout ceci s'ancre, mais en même temps il y a une rupture qui va fonder la philosophie. Cette nécessité de développer une pensée philosophique autonome par rapport aux théologies, et je pense en particulier à la théologie chrétienne, c'est quand même un point essentiel. L'autonomisation de la philosophie, de la pensée philosophique. Deux choses rapidement par rapport à cela, mais on ne va pas développer cela parce que ça nous entraîne ailleurs, mais deux choses. Héraclite, on n'en connaît que très très peu de choses, donc c'est compliqué de surévaluer la pensée d'Héraclite aujourd'hui parce qu'on n'en connaît quasi rien, les fragments. Donc, c'est très limité, la connaissance actuelle qu'on a d'Héraclite. Très limitée. L'autre chose, c'est qu'il y avait, et là, il y a une dialectique entre les deux, qui a eu une influence tout aussi importante qu'Héraclite, à ce moment-là, c'est Parménide. Et il y a la tension entre Héraclite et Parménide, qui est à ce moment-là, tout aussi importante qu'Héraclite tout seul. Si vous voulez, en avenir du mouvement, de la dynamisme, d'une certaine manière. Alors que Parménide est plutôt la pensée... vous savez, c'est Héraclite qui dit « On ne se baigne jamais deux fois dans la même eau du fleuve ». enfin, ou des variantes de cette phrase, Parménide est plus sur la permanence de l'être. La permanence, voilà. Et donc, Platon a un de ses livres qui s'appelle précisément Parménide. Donc, c'est dire que le Parménide est tout aussi important qu'Héraclite, mais que le problème, c'est que ces deux pré-socratiques, ça, c'est Nietzsche qui les a, d'un point de vue philologique, exhumés de l'oubli, clairement, mais parce que Nietzsche n'aimait pas Socrate. Donc, quand on n'aime pas quelqu'un, on a toujours tendance à dire, mais avant lui, cherchez avant pour démolir. Voilà, c'est une méthode pas toujours très plaisante, parce que c'est l'éternel même mécanique qu'on trouve dans la vie des idées ou la vie intellectuelle. Oui, en particulier, il assimilait ce qu'aimait bien, par contre, Clavel. Socrate, ça renvoie à la lecture qu'on a faite de Socrate et de Nietzsche au 18e, 19e. Sauf que ce n'est pas le vrai Socrate et le vrai Platon. Je veux dire, on a des lectures qui sont aujourd'hui beaucoup plus éclairées, renseignées, qui montrent que, par exemple, quand je disais tout à l'heure sur Socrate, l'oralité, Platon, l'écrit. C'est pratique de faire des catégories qui s'opposent, et en réalité, ce que j'ai dit là n'est pas vrai. Alors, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'en gros, je m'étais engueulé avec un prof d'université aujourd'hui qui a un cours totalement préétabli, figé, et qu'il va transmettre comme ça, mais en fait, l'essentiel est dans l'écrit, et la meilleure preuve, c'est qu'on peut lire son livre et on ne va pas au cours, ce que savent faire les étudiants aujourd'hui. Platon, ce n'était pas ça, et l'académie, ce n'était pas ça. C'était toute la dialectique au sens antique du terme, c'est-à-dire cette tension dans le dialogue, dans la mise en évidence des contradictions, pour être toujours sur le chemin de la vérité. Voilà. Par-delà la doxa, par-delà tous les préjugés, les prénotions, l'opinion commune qui nous traverse tout. Platon, c'était aussi ça. C'est pas quelqu'un qui, dans sa chambre, a écrit des livres et après a dit, ben voilà ce que j'ai écrit. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que faut faire attention. La pensée, surtout quand on regarde ce qui est passé, par commodité méthodologique, a toujours tendance à faire des classements, des catégories, et à opposer cette catégorie pour y voir clair. C'est légitime, et c'est vrai qu'on ne fonctionne pas autrement. On fonctionne toujours, et même Platon lui a dit, la diarrhée, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut séparer. Il faut séparer pour y voir clair au milieu du chaos, du grand mélange, du grand fourre-tout. Il faut distinguer. Et ça, c'est les mots qui permettent de le faire, et les mots, ça permet de créer des catégories qui classent, qui organisent. Voilà. Mais attention à ne pas réduire la pensée, et donc le logos, ce qu'on a trop souvent fait, et donc la raison au sens fort du terme, à cela. Parce qu'on tombe, effectivement, il faut faire attention à ne pas confondre raison et rationalisme. C'est pas la même chose, justement. Le rationalisme, c'est le défaut de la raison qui se contente, justement, de faire des catégories. On le retrouve dans le problème de l'épistémologie des sciences. Les sciences modernes, à partir du 18e en particulier, mais même avant, ont fonctionné par taxinomie. C'est Foucault qui l'a bien mis en évidence, ça aussi. C'est-à-dire créer des catégories, des petites cases, des classifications, et réduire le savoir à ça, sans s'interroger sur le fait que les cases qu'on crée, c'est des frontières poreuses. C'est jamais des frontières hermétiques, d'une part, et que d'autre part, ces cases sont mouvantes. Et qu'en plus, il peut y avoir du mouvement, de la tension, de la dynamisme qu'il faut prendre en compte, et que cette pensée taxinomique souvent évacue. Bref, ceci pour dire, je reviens, on en reste là, mais on y reviendra, tu verras. Ceci pour dire que les écoles, donc l'épicurisme et le stoïcisme, ne s'opposent pas comme cela à l'Académie et à Platon, mais sont dans une forme de prolongement sur essentiellement la question morale, c'est-à-dire la question pratique, comment on vit en philosophe. Et le modèle reste Socrate. C'est pour cela que, d'ailleurs, ces écoles, elles n'abandonnaient pas l'exigence de la philosophie platonicienne et aristotélicienne d'un système d'articuler toutes les dimensions du monde, du vivant. Et donc, ce sont des courants qui produisent des textes sur la physique, sur l'esthétique, sur la métaphysique. Simplement, ce que l'on constate, c'est qu'en réalité, l'essentiel des livres des stoïciens et des épicuriens sur la physique, sur la métaphysique, sur l'esthétique, sont en gros des reprises de ce que Platon et Aristote avaient apporté. C'est-à-dire qu'en gros, ils considèrent que la théoria est acquise. Ils reprennent cela avec leur regard pour montrer qu'ils sont dans l'exigence de la philosophie comme construction d'une pensée du tout. D'accord ? Mais leur rapport et leur effort de pensée est essentiellement donc sur la question de la raison pratique, de la morale. D'accord ? Voilà. Bon, rapidement, il y a deux autres courants, deux autres écoles aussi qui sont, si on peut parler d'école pour l'une d'ailleurs, qui sont aussi les sceptiques, et puis le cynisme. Donc, les cyniques, je n'y reviens pas, on abordera très peu ça, c'est donc essentiellement Diogène et sa jarre, son tonneau. Et je n'y reviens pas tout de suite, simplement ce qu'il faut dire, c'est que c'est les figures de Diogène de Pyrrhon dans la période hellénistique, 4e siècle, disons, sont extrêmement importantes, ont une influence considérable. Parce que, précisément, ils répondent aux enjeux liés à la démoralisation collective de la société grecque dans cette période-là. Mais en même temps, très rapidement, leur façon d'être, leur pensée, crée une insatisfaction, voire, pour le coup, un recul, qui va faire que le stoïcisme et les épicurisme vont véritablement s'imposer comme étant les façons de penser qui apportent véritablement des réponses. En particulier, ce qui est rejeté dans le scepticisme le cynisme, c'est le côté excessif et le goût pour le scandale permanent, quoi. Donc, ça n'apparaissait pas comme apportant véritablement des réponses satisfaisantes, comme répondant, on va venir là-dessus après, à l'angoisse collective de cette période-là. Voilà donc ceci pour dire que la période hellénistique est quand même une période de bouillonnement extrêmement importante et d'essor, d'émergence d'écoles de pensée, de lieux de pensée, de lieux d'élaboration philosophique extrêmement rayonnant, extrêmement important. Alors, comment caractériser cette période hellénistique, donc du 4e siècle avant notre ère jusqu'à zéro, si vous voulez, en gros, pour fixer un cadre temporelle. C'est une période où la cohérence et l'harmonie de la cité grecque s'est effondrée totalement, suite à plusieurs événements successifs qui chamboulent complètement le monde grec. Donc c'est une période de césure, de rupture, qui va se retrouver dans le cheminement de la pensée. La première rupture, c'est le fait qu'Athènes soit devenue, entre guillemets, une colonie de la Macédoine avec Philippe II de Macédoine, le roi de Macédoine qui conquiert donc toutes les cités grecques et qui impose un pouvoir royal athénien qui pensait le monde et la société à partir de deux grands principes, qui est en gros l'autonomie et l'autarcie. Le citoyen athénien est soumis à une volonté, à un pouvoir qui lui est étranger. Ça, c'est un premier point essentiel. Alors, pour situer exactement les dates, ça on les connaît, Philippe II, c'est -382, -336. Le deuxième événement est lié à l'avènement d'Alexandre. Alexandre III de Macédoine, qui est le fils de Philippe II, et qui va véritablement fonder un empire. Vous connaissez l'empire d'Alexandre. Donc, Alexandre a une vie très courte, mais décisive. Je vous donne, à titre de repère, ces dates. C'est -356, -323. Mort d'ailleurs à Babylone, c'est actuellement en Irak. Hein. Alexandre, donc, va fonder cet empire qui est un mouvement unique dans l'histoire de l'humanité, d'unification, je dirais, du monde. Donc, on est sous une première forme de mondialisation. Et de mondialisation, vous allez me dire, mais les Chinois, les Incas, enfin les Incas, mais du monde connu, du monde connu. Tout ce qui est connu. Donc en gros, c'est le pourtour méditerranéen, le Moyen-Orient, l'Égypte, jusqu'à l'Indus. L'Indus, c'est un fleuve qui existe toujours, sous ce nom, enfin, qui est un fleuve qui part du nord-est au sud-ouest, qui longe plus ou moins le Pakistan actuellement, et qui traverse une partie au nord de l'Inde. Voilà, donc, ce qu'il faut voir, c'est que donc, la Grèce, et en particulier Athènes, est donc traversée par ces deux temps qui, de bouleversement, de chambardement, qui peuvent se rapporter à ces deux figures politiques centrales, Philippe II, roi de Macédoine, qui colonise les cités grecques, et ensuite le fils Alexandre III de Macédoine, qui crée un empire mondial, qui crée la mondialisation, et qui crée une forme d'unité politique et en partie culturelle entre l'Occident et l'Orient. Et c'est là qu'on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure rapidement, c'est là qu'on comprend comment toutes les mythologies, les systèmes religieux, symboliques de l'Orient, toute la pensée orientale, vont être connues et vont avoir une influence considérable à partir de la période hellénistique dans la société grecque de cette période. C'est lié à cette unification que l'Empire de Macédoine a permise. Donc, il en résulte un certain nombre de conséquences pour la conscience du citoyen grec, conséquences qui sont considérables. Je le disais, je précise un peu les choses, démoralisation tout d'abord, c'est qu'en gros, toute la cohérence, l'unité, basée encore une fois sur l'autonomie, l'autarcie, il y a un sentiment que le citoyen grec ne maîtrise plus son destin, n'a plus de maîtrise sur son destin à la fois collectif et individuel. Et ça, ça renvoie directement aux enjeux qui se posent dans notre monde actuel avec la mondialisation. Ce sentiment est communément partagé aujourd'hui que les cadres politiques de la nation qui font qu'un peuple, une société a, notamment par la démocratie, par le jeu politique, a une forme de maîtrise de son destin, ce sentiment aujourd'hui est très largement mis à bas. D'où la crise, entre guillemets, c'est le mot qu'on utilise à tout propos, mais qui est plus un symptôme qu'un... c'est pas un concept, la crise, qu'autre chose politique de notre monde. La crise de la démocratie, comme on dit, et tout ce qui tourne autour. Ça renvoie à ce sentiment que le monde hellénistique grec connaissait, c'est ce sentiment que notre destin collectif et du coup aussi individuel nous échappe. On n'a plus de maîtrise de ce destin. Ça se traduit par aussi ces réflexes, combien dangereux qu'on retrouve partout en Europe, de repli sur soi, ces réflexes qu'on va dire identitaires. Juste, j'ajoute ceci. Le parallèle qu'on peut faire, ce sont des analogies, hein, il ne faut pas être dans l'anachronisme, mais c'est pour montrer comment les enjeux de la période hellénistique et les réponses que ces philosophies ont apportées sont d'une actualité pour nous. Nous parlons aujourd'hui. L'autre aspect qui se joue dans l'empire, du fait de l'empire macédonien d'Alexandre, c'est le fait qu'il y a des échanges, hein. Même à l'époque, ça créait des mouvements de population, des migrations, voilà. On va le dire comme ça, parce qu'on pourrait dire, bon, Alexandre conquérait ce monde de l'Orient, de l'Occident, mais en réalité, ça n'avait pas de conséquences. Chacun restait chez soi. Ben si, ça a eu des conséquences, il y a eu des mélanges, des brassages. Et ces brassages soulevaient les mêmes questions auxquelles on est confronté aujourd'hui, qui est la question des migrants, la question des mouvements de population à travers le monde. Avec ce double réflexe qu'on connaissait chez les Grecs de la période hellénistique, un réflexe de méfiance, de rejet, de protection, par rapport à l'idéal dépassé de l'autarcie, aujourd'hui par rapport à l'idéal de la nation comme espace socio-culturel homogène. Donc à la fois un rejet, parce que celui qui vient d'ailleurs apparaît comme une menace.
Le barbare.
Enfin, le barbare était une notion antérieure, hein. Oui, le barbare, c'est celui qui n'était pas grec, qui parlait pas la langue grecque. Hein. Donc c'était dans l'époque de la Grèce classique, hein, la notion de barbare. Non, celui qui vient d'ailleurs, qui est d'un tout autre monde, et en même temps, ce que les historiens hellénistes ont montré, c'est qu'il y avait aussi des mouvements de solidarité. Il y avait une solidarité objective qui se constituait à partir de cette unification politique. Ce melting pot n'était pas que un rejet. Il y avait aussi ce mouvement de connaissance de l'autre, de lien à l'autre, d'élargissement de son horizon. Des frontières sociale, politique, culturelle, cet élargissement qui perturbe la représentation qu'on peut avoir d'un monde effectivement unifié, homogène, malgré l'unification politique. Et aujourd'hui, c'est un peu similaire, si ce n'est qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a un côté plus grave, qui est que l'unification, elle n'est pas politique. Parce que l'ONU, par exemple, c'est rien. C'est une unification économique. C'est-à-dire que les pouvoirs qui unifient notre monde sont des pouvoirs économiques aujourd'hui, c'est-à-dire les grandes multinationales qui règnent sur le monde, qui n'ont pas comme finalité, première en tout cas, une unité, une organisation unifiée de nouveau monde, quoi, d'une certaine manière. Donc effectivement, ce problème est d'autant plus aggravé, quoi. Aujourd'hui, par rapport au réel, c'est est-ce que aujourd'hui c'est plus violent qu'hier? Alors, il y a un sentiment commun qui est que notre monde est plus violent. En réalité, si on prend un recul historique, on se rend compte que c'est beaucoup moins violent, mais c'est pas la même violence.
Ça dépend de ce qu'on appelle violence.
Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'il faudrait en soi une réflexion sur la question de violence.
C'est un peu plus violent que ce que l'on vit aujourd'hui.
Voilà. Mais le sentiment de violence est plus faux et plus fort. Alors on peut dire qu'il est faux par rapport effectivement à ce recul historique, mais simplement il faudrait s'interroger sur le changement de nature de ce qu'est la violence.
Oui, tout à fait. Ouais.
Vous
allez
définir
la violence.
Je rappelle simplement d'un mot, mais j'insiste pas, que la violence chez les Grecs, c'est un mot qui est, absolument, qui vient directement du mot grec bios. VB, vous savez, c'est le même mot, on le retrouve en espagnol, c'est-à-dire. La violence, c'est la vie. Mais la vie, l'élan vital, c'est pour ça que je me méfie, enfin, je dis, il faut faire attention aux philosophies vitalistes, aux philosophies qui ne célèbrent que le pur vivant, parce que ce sont des philosophies, forcément, qui négligent la question que pose la violence même de la vie, c'est-à-dire la question morale. Ce sont des philosophies qui, généralement, ne sont pas négligent la morale.
Forcément.
C'est-à-dire qui néglige l'enjeu de mettre une loi.
Ouais.
Parce que la loi apparaît comme ce qui contient, limite, et donc limite, le vivant. C'est le problème du jardinier qui va tailler l'élan sauvage du végétal, qui va contenir l'élan sauvage du végétal. Vous pouvez confronter au grand nombre. Pourquoi? Parce que pour les Athéniens, le nombre voulu, c'est la même chose qu'évoque Rousseau par rapport à son projet de constitution pour la Corse, le nombre voulu, c'est quelques milliers. Et au-delà, on passe au grand nombre. D'ailleurs, c'est une idée qui s'est prolongée jusqu'à la pensée politique du XIXe siècle. Je pense aux socialistes utopiques. Par exemple, à Fourier, Charles Fourier, le modèle de société, il y a un prolongement très clair de l'idéal platonicien de la République. Hein. Le phalanstère, il a calculé le nombre. Le nombre, c'est 2872, un truc comme ça.
C'est l'autarcie.
Ce n'est pas une utopie socialiste. Hein. Oui. Au sens où ça a été conçu avant le 19e siècle. Hein. Oui. Attention. Bon, que le doux. La finalité n'était pas la même. Mais c'est là qu'on voit, et que Foucault, ça donne raison à Foucault, le lien qu'il peut y avoir entre une visée de pouvoir, par exemple le pouvoir royal, d'organisation contrôlée des populations, et une visée alors d'un socialisme utopique, d'une société idéale de fraternité. On voit qu'il y a une proximité, il y a une porosité entre les deux modèles. Et là, Foucault a fourni une clé probablement de lecture de ce qui aurait été après le communisme totalitaire, quoi. Mais bref. Donc, il faut, ceci pour dire que pour l'Athénien, à partir du moment où les frontières du monde grec et où les frontières de la cité grecque étaient rompues, il y avait le sentiment d'être confronté aussi à un très grand nombre. Ce n'est pas démographiquement le même qu'aujourd'hui, mais la notion de grand nombre est en fait très largement liée aux représentations que l'on s'en fait, hein. C'est pas objectif, c'est pas arithmétique le grand nombre. Le grand nombre, et c'est pour ça que je me méfie beaucoup des discours très malthusiens qui se développent aujourd'hui, selon quoi on serait trop nombreux sur Terre. Hein. Ce sont des discours qui sont justifiés par soi-disant une évaluation arithmétique objective du grand nombre, qui est extrêmement dangereuse quant aux conséquences que ça peut amener. Oui, on sait que si on pense le grand nombre, qu'on est trop nombreux, voilà, il faut éliminer, quoi.
Mais par contre, ce qui est...
L'ailleurs, il est en train de se constituer dans les utopies au niveau du cosmos. C'est-à-dire, en gros, de pouvoir vivre sur Mars, vivre sur la Lune, vivre... c'est un ailleurs qui se constitue. Et que l'on retrouve, d'ailleurs, dans tout un courant de la littérature de science-fiction. L'ailleurs, il s'élargit, mais l'ailleurs, il existe, quoi. Il existe. Dans nos représentations.
C'est
un linéaire.
Oui,
mais pour les Grecs, c'était pareil. Ils n'avaient pas de représentation de la planète. Pour eux, avoir par rapport à la période de l'hellénistique, c'est que cette extension infinie pour eux, jusque aux frontières du monde inconnu, de l'au-delà, du vide, qu'a permise l'empire d'Alexandre, crée effectivement un effondrement des cadres traditionnels de la cité grecque, qui a un effet premier donc d'anomie, de démoralisation, de sentiment de chaos, qui se traduit par un sentiment dont les hellénistes ont montré comment il était puissamment partagé, un sentiment est une conséquence de cet effondrement des cadres traditionnels qui fait qu'à la fois on ne se représente plus le monde de façon cohérente et unifiée, comme une totalité pour le coup, et d'autre part, comme le sentiment qui prédomine, c'est que notre destin nous échappe, on a le sentiment que notre devenir, on ne sait pas ce qu'il est. Or, comme je le dis souvent, l'angoisse est au vide moral, mental, ce qu'est le vertige à un objet définissable. Ce qui fait que si cet objet est maîtrisé ou dépassé, la peur tombe.
Oui, ou se retrouve un autre objet.
Ou glisse sur un autre objet, oui. Alors que l'angoisse n'a pas d'objet.
Et
on n'en a pas une représentation précise. Et ça rend... Non, l'angoisse est au vide mental, moral, ce qu'est le vertige au vide physique.
C'est...
Premier de cordée. L'homme, effectivement, a besoin d'un système de croyances qui donne sens à sa vie, c'est un sens dans les deux sens du terme, quoi. Une orientation, c'est de savoir où il va, quel est son devenir. À partir du moment où ce système s'est effondré, on se raccroche à quoi pour juguler l'angoisse? Il y a une réponse, et ce qui est très intéressant, c'est que cette réponse, qui est illusoire, on la retrouve aussi bien dans la période hellénistique qu'aujourd'hui. La réponse, c'est de croire au hasard, de croire à la chance.
Ah,
Et chez les Grecs, dans la période hellénistique, un des cultes qui se développe le plus, c'est le culte de Tyché, T-Y-C-H-E, Tyché, qui est la déesse de la chance, la déesse du hasard. Tyché. Du hasard, la déesse de la chance. Or, oui. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est, je lisais ça récemment, les cadans, les jeux se développent énormément aussi. Quelle est la signification, à quelle signification accrocher ce développement de la pratique des jeux de hasard? Je ne parle pas des jeux de société, des jeux de hasard. C'est précisément que la chance, on va tenter la chance, parce que peut-être que ça va nous apporter la fortune. Or, entendez fortune dans tous les sens du mot. Fortuna. La fortune, c'est la chance par rapport à notre destin, par rapport à notre devenir. Or, l'importance de la déesse Tyché, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus d'autres systèmes qui permettent de se faire une représentation stable de son devenir. D'accord? Donc, on ne se raccroche qu'à ce qui reste, le hasard, la chance, qui suppose l'indétermination, qui suppose qu'il n'y ait plus de nécessité auquel on peut se raccrocher. Parce que des systèmes de croyances ou des systèmes de valeurs parfaitement établis, qui sont des systèmes téléologiques, comme on dit, c'est-à-dire qui donnent une science d'un but. Ces systèmes nous donnent une nécessité dans l'existence, pour le dire en termes plus contemporains existentialistes, un sens de l'existence. Quand ça s'effondre, qu'il n'y a plus de nécessité, qui reste, c'est effectivement de s'en remettre à la chance ou au hasard. Et les jeux correspondent précisément à cela. Parce que si on regarde l'évolution de notre société occidentale sur le dernier siècle, on se rend compte que nous avons vécu de façon en plus accélérée l'effondrement de trois systèmes téléologique, qui prédominait. Le système fondé sur la croyance en Dieu, globalement, prenons la société française. Globalement, ce que l'on constate, c'est que la société française est, dans les pratiques, dans les croyances quotidiennes, est laïcisée à 95%, pour ne pas dire plus. Il faut comparer par rapport à ce qu'était encore la société française il y a 50 ans. Je veux dire, très largement, c'est quand même un constat qui est fondé, qui fonctionne. Une utopie politique, c'est l'avènement, la croyance largement partagée. Alors là aussi, vous pourrez me dire, mais tout le monde n'était pas révolutionnaire. C'est pas ça la question. C'était le flux dominant qui traverse une société. La conviction que notre société va vers un progrès politique qui va... Bon, et le troisième grand système téléologique qui s'effondre, c'est la croyance dans la science. Et le progrès scientifique. Et en particulier, la médecine. Ce système est en train de s'effondrer. C'est la fin de la croyance pasteurienne. Je dirais ça comme cela. C'est qu'en gros, on a vraiment cru jusqu'à, là aussi récemment, que l'humanité progressait vers un bien-être généralisé, donc une forme de paradis sur Terre, de bien-être généré, grâce à la science et grâce notamment à la médecine qui ferait qu'on en aurait fini une fois pour toutes avec le mal dans le corps s'appelant maladie, voire avec la mortalité du corps. Alors, j'entends l'objection, mais je vais revenir sur l'objection. Simplement, historiquement, souvenez-vous que, encore dans les années 50-60, une dernière maladie qui faisait peur à tout le monde, c'était, il y en avait deux, c'était la tuberculose et la polio. On a éradiqué ces maladies. Ensuite, il subsistait le cancer. On ne l'a pas éradiqué, mais on espérait l'éradiquer définitivement. Sauf que ce que l'on constate, et ce qui se fait jour de plus en plus dans les consciences, c'est qu'on n'en aura jamais fini. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un progrès médical local, c'est ce qui rentre dans les consciences de plus en plus. Il y a peut-être des progrès locaux, mais globalement, l'utopie médicale, on n'y adhère plus. Ce que l'on constate, c'est qu'une maladie est vaincue, mais elle est chassée par une autre. Et pire encore, les maladies qu'on croyait éradiquées définitivement par rapport au progrès médical ressurgissent pour différentes raisons, mais notamment parce que les systèmes de soins produisent des effets secondaires qui font que la maladie revient. Je pense notamment à toutes les maladies virales et microbiennes. Ce que l'on constate de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, c'est on pourrait faire l'histoire des antibiotiques. On a cru que les antibiotiques permettaient d'en finir avec toutes les maladies à caractère microbien, bactérien. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ça produit une mutation et que les maladies ressurgissent de manière encore plus violente parce que les petites bêtes qui les provoquent ont muté et sont encore beaucoup plus résistantes et que peu à peu, si vous voulez, se développe une conscience aujourd'hui selon quoi on n'en aura jamais fini. C'est-à-dire que c'est une course contre la montre. L'espérance de vie, c'est une moyenne, beaucoup plus par la diminution de la mortalité infantile et beaucoup plus grâce à l'hygiène et à l'habitat qui se sont améliorés que à la médecine proprement dite.
Oui, les mères infantiles, elles ont été freinées par l'avancée de la médecine aussi. Donc, on va enlever la médecine.
Attention, là, je ne suis pas en train de dire que. Je ne suis pas en train de faire une critique de l'acte médical. Je suis en train de dire que le système téléologique de la science, qui est qu'on était porté par l'idée d'un progrès sans frein qui allait permettre d'accéder, que l'humanité accède à un bien-être généralisé, cette utopie, ce système téléologique, est développé par certains à la fois scientifiques et autres, selon quoi on va permettre, grâce à la biogénétique, etc., d'atteindre une forme d'immortalité du corps humain. Mais en même temps, ce discours reste très minoritaire et est battu en brèche. Ça n'a pas constitué, à ce jour, un système de croyance communément partagé, un système téléologique. La technologie, alors, oui. Mais en même temps, c'était lié, ce système téléologique scientiste, on va l'appeler comme ça, avait produit une croyance dans un progrès sans fin grâce aux techniques, à la technologie. Or, ce que l'on doit constater, c'est cette croyance au progrès. Il faut comparer par rapport au 19e siècle, par exemple.
Oui.
Cette croyance au progrès s'est complètement retournée en son contraire. Aujourd'hui, on met beaucoup plus l'accent sur les dégâts du progrès, comme on l'a dit. Sur le fait que le progrès est à double tranchant. Que le progrès a amené la pollution. C'est la conscience écologique. Regardez le discours qui se développe aujourd'hui sur la nature. une nouvelle forme de sacralisation de la nature, voire du sauvage. Aujourd'hui, c'est extrêmement troublant. De plus en plus, on le retrouve partagé chez plein de courants, d'individus, que le sauvage serait le lieu de la vie pure, de la vida pura. C'est quelque chose, c'est une conscience qui se développe de plus en plus. Or, le sauvage est pensé comment ? Est pensé par opposition à la culture, par opposition à la civilisation, parce qu'il est la nature à l'état pur. Or, la nature à l'état pur, c'est, ça se pense par opposition à la culture.
Donc,
il y a même un discours animaliste aujourd'hui qui se développe, qui est très symptomatique, qui pense que les relations entre animaux sont une relation où il n'y a pas de violence.
Oui, c'est pacifique.
Qui sont, pacifiques au sens où elles obéissent à une harmonie d'ensemble. Mais oui, mais ça renvoie, on l'a déjà évoqué, au problème de la conception de l'universel.
Est-ce que la
Oui, oui, non, mais c'est toutes ces questions que ça pose, hein, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve d'une certaine manière la même conscience chez les Grecs de la période hellénistique. Mais après, je laisse de côté, c'est une réflexion qui était chez Platon, hein. L'âme multiple, c'est une question centrale chez Platon et chez les néoplatoniciens encore plus. Comment on pense l'un par rapport à la multiplicité, par rapport au pluriel. Sauf que, il est clair que le monde grec, malgré le constat de l'éclatement de l'unité, malgré le constat que le pluriel, le poilitikos, pas le politique, hein, poilitikos, est un état du monde, de la société, reste la valeur suprême. Et je pense que la question se repose aujourd'hui, est-ce que l'un reste la valeur suprême, c'est-à-dire reste synonyme du bien ? Et cette question, on y reviendra, mais elle est centrale. Ce qu'est notre monde contemporain ? On ne croit plus à toute forme de l'un parce que l'universel tel qu'on l'a pensé était un universel homogénéisant, uniformisant. Mais la question, c'est là aussi, je te renverse ce que tu dis, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, probablement. C'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'il faille abandonner l'exigence de l'un, et faire le culte déifié, si j'ose dire, la multiplicité dispersée. Je renvoie, mais j'avais déjà évoqué ça, c'est très intéressant ces travaux, vu qu'on parlait de médecine avant, aux réflexions de ce grand médecin biologiste philosophe qui s'appelle Henri Atlan, qui a écrit ce livre « Entre le cristal et la fumée ».« Entre le cristal et la fumée ». Et le sous-titre, c'est « Essai sur les organisations vivantes ». Et Atlan montre qu'il y a deux principes de mort et que le vivant est entre ces deux principes. Les deux principes de mort, c'est le principe du cristal, c'est une structuration complètement homogène qui produit un ordre parfait, immuable. La transparence totale qui implique l'homogénéité parfaite. D'accord ? Il montre comment c'est un principe de mort, c'est-à-dire en gros, c'est un corps vivant qui devient mort, qui se pétrifie jusqu'à l'ordre parfait du cristal. C'est la mort. Mais à l'inverse, donc aujourd'hui on est là dans la critique de cela. Mais à l'inverse, Atlan montre comment il y a un autre principe de mort qui est le principe de la fumée. La fumée, c'est la dispersion dans le pluriel, dans le multiple infini, qui fait qu'aucune forme ne peut se fixer. aucune forme ne se fixe dans aucune règle, il n'y a aucune loi, c'est l'anomie totale, si vous voulez. La dissolution de toute forme de l'un dans le multiple absolu. Et il montre, à partir de la biologie des corps vivants, comment c'est un principe de mort. La fumée, c'est la mort. Et il montre le moyen terme entre ces deux écueils opposés, entre un nain universel homogénéisant qui fiche tout, et un multiple absolu. Donc c'est on rejoint en plus ce que Platon, mais surtout les néoplaténiciens, avaient tenté de penser autour de ce qu'ils appelaient l'un multiple, le principe de l'un multiple. Bref. Ah oui, c'est essentiel pour aujourd'hui. Alors, je reviens toujours à ce parallélisme entre la société hellénistique et notre société contemporaine. Donc, ce système théologique est donc divinisation par excellence du hasard, ce que l'on retrouve aujourd'hui. Donc c'est une époque également qui est caractérisée par l'angoisse, et il y aura une demande qu'on peut appeler, sans faire trop d'anachronisme, une demande de thérapie. Bon, cette demande de thérapie, c'est précisément l'épicurisme et le stoïcisme qui vont y apporter des réponses satisfaisantes et qui vont ce qui va expliquer le succès. C'est globalement occidentalisé. C'est ce qui prédomine aujourd'hui, c'est l'occidentalisation du monde. Regardez la société chinoise, dont je pense qu'elle va devenir prédominante beaucoup plus que, je pense, l'islam. Pour différentes raisons, y compris démographiques, pour le coup. La société chinoise est largement, et c'est l'astuce du totalitarisme chinois, et c'est largement occidentalisé, et de plus en plus occidentalisé. L'Afrique aujourd'hui, qui est un peu sous le certain nombre de pays, sous le joug de l'islam, l'Afrique qui était chrétienne, qui est un peu, elle est en train de se sinéiser à vive allure. Mais je veux dire, le constat, on peut l'établir aujourd'hui, très clairement.
Mais ce qui me gêne, c'est que selon qu'on est européen...
Donc, attends, je n'ai pas terminé sur un point. Donc, le parallèle que je fais avec la période hellénistique et Alexandre, c'est que, certes, il y a eu une hellénisation du monde, mais d'un monde en même temps fragmenté. Aujourd'hui, il y a une occidentalisation du monde. C'est l'empire, on va le résumer, c'est même plus l'empire de Coca-Cola, c'est l'empire de la Silicon Valley, de Google. Et même l'Iran, même la Corée du Nord n'arrive pas à échapper, même la Chine n'arrive pas à échapper à Google, à Twitter and co. Hein. Donc il y a ça d'un côté, donc il y a cette homogénéisation par l'occidentalisation, ce qui n'empêche pas un éclatement du monde. Faire parler de ce qu'on connaît, expérimente le mieux, c'est-à-dire de nous, pour comparer. Je veux bien évoquer ce qui se passe au fin fond de l'Océanie, mais le problème, c'est que on va mal connaître et on va en parler en ne faisant que des projections de nous. Donc, si tu veux, volontairement, résolument, je parle par rapport à nous. J'identifie notre période par rapport à nous, par rapport à ce dont on fait l'expérience, si tu veux. L'autre chose, c'est que je pense que de plus en plus, c'est universel. C'est-à-dire qu'en gros, Bien sûr qu'il y a des adaptations locales, mais regarde, je l'avais fait venir une fois, il s'appelle, son nom de famille c'est Clément, parce que c'est le neveu de Catherine Clément. Julien Clément, voilà, qui est un anthropologue qui a étudié les sociétés océaniennes, et notamment à partir du rugby. Il a étudié en particulier le phénomène du rugby autour des Samoa. Voilà un exemple qui est intéressant pour les anthropologues, parce que Samoa, c'est typiquement une société encore traditionnelle, sauf que ce qui montre, c'est qu'elle est très largement occidentalisée. Et le meilleur exemple, c'est le rugby. Alors, ils jouent du rugby différemment que les équipes anglaises, par exemple. Il y a une adaptation, mais la cité de l'Église catholique, d'ailleurs, c'est d'absorber. L'Église catholique a su complètement absorber l'animisme, par exemple. On l'a vu en Afrique, ou même en Amérique latine. Je pense au livre, par exemple, de Frédéric Ildefonso. En France aussi, bien sûr. Les fêtes religieuses, c'est propre de cette visée universelle, homogénéisante, d'être capable d'absorber des configurations, des formes sociales, culturelles, symboliques, qui, a priori, sont extérieures, sont étrangères. Les absorber. Et je crois que ça a été la force de l'Occident. Donc on peut parler effectivement des sociétés primitives, traditionnelles ou premières en Océanie, en Afrique, sauf que globalement, le mouvement... ce que les économistes sont en train de dire, c'est que l'Afrique va devenir une puissance économique. Pourquoi elle va devenir une puissance économique ? Grâce à une démographie, puis grâce au fait qu'elle se développe économiquement. Or, le développement économique, c'est quoi, si ce n'est un effet de thérapie. Alors, pour aujourd'hui, très rapidement, je vous renvoie simplement aux ouvrages de quelqu'un que j'avais fait venir, qui a fait des études sur le milieu psychiatrique très poussées.
Cyrulnik ?
Non, non. Non, non, c'est...
Tobinathan.
Non. Je suis désolé, au même moment, son nom m'échappe. Bref, et qui montre comment, depuis une quarantaine d'années, progressivement, les psychiatres ont connu une évolution complètement énorme des pathologies, où, ce qui fait que leurs outils traditionnels, leur nosographie traditionnelle, d'identification et de classement des maladies psychiatriques traditionnelles, vous connaissez autour de la schizophrénie, etc., sont de moins en moins pertinentes parce qu'ils sont confrontés de plus en plus à des formes qui échappent au cadre des nosographiques. Ce qui fait que la psychiatrie connaît une crise considérable en France, et mais pas qu'en France. Mais restons en France, vu qu'on est en France. Et que ça renvoie au fait que de plus en plus, le constat, c'est que de nouvelles pathologies, mal-être, souffrances psychiques se développent, pour lesquelles tous les outils traditionnels ne sont pas adéquats. Et c'est ce que on peut regrouper sous l'étiquette à la fois commode mais signifiante de dépression. La dépression. J'ai pas retrouvé le nom de celui dont je parlais, mais j'ai retrouvé le titre d'un de ses livres, qui est « La fatigue d'être soi ». La fatigue d'être soi. Or, ce constat, je l'associe à cette demande thérapeutique nouvelle et généralisée, massifiée, qui fait qu'on peut faire le parallèle avec l'hellénisme, la période hellénistique. Ça renvoie à quoi, cette dépression ? À cette fatigue d'être soi, qui peut revêtir des formes variées se traduire par des demandes variées, mais derrière ces demandes variées, on peut mettre le mot des thérapeutiques là aussi. Des demandes thérapeutiques, je me sens mal, trouvez-moi le remède. Alors ce remède peut être extrêmement varié, encore une fois. C'est le constat théorisé donc par celui dont j'ai perdu le nom, que font quotidiennement les psychiatres depuis une quarantaine d'années, constat qui ne fait que s'amplifier. Ceci renvoie profondément à cette question de l'anomie, à cette question de l'angoisse, fondamentalement. Du vide. Je renvoie aussi aux travaux de quelqu'un qui est intéressant sur le sujet, qui est un philosophe, sociologue, qui s'appelle Gilles Lipovetsky, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'ère du vide ».
Oui.
Lipovetsky dit ça, mais dans ses livres plus récents.
Oui.
Voilà, donc, vous voyez, cette demande de thérapie, on la trouve communément partagée aujourd'hui. Alors ça peut revêtir donc des formes extrêmement diverses, encore une fois. Une thérapie psychothérapeutique, une thérapie naturothérapeutique. Voilà, on va trouver toutes les formes. Le New Age, d'une certaine manière, c'est cela. Oui, mais peu importe que ça soit pour vendre, ça veut dire que ça correspond à un courant. On ne va pas chercher à vendre ce qui ne correspond à aucun courant dans la société. Aujourd'hui, il y a des auteurs qui vont vendre la lecture, la littérature comme thérapie. Vous savez, on a forgé la notion de bibliothérapie, par exemple.
C'est Wachnin.
C'est aussi, je pense, à un auteur de littérature pure qui est une romancière qui n'est pas inintéressante, qui s'appelle Régine Détambelle. Elle développe elle propose des stages de bibliothérapie, par exemple. Donc vous voyez, j'en termine sur ce parallèle. Vous voyez que notre période correspond sur plein d'aspects aux mêmes formes que ce qui se jouait dans la période hellénistique. Donc, pourquoi chercher dans les vieux textes, ben peut-être qu'il nous parle pour aujourd'hui.
Quelle conclusion ?
Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui.